Voilà, nous allons commencer notre soirée. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 52e soirée d'éthique publique des facultés jésuites de Paris. C'est la dernière soirée de l'année et comme nous le faisons souvent en fin de chaque année, je crois qu'il est bon de faire mémoire des différents thèmes, des différentes questions que nous avons essayé d'aborder ensemble tout au long de cette année. Certains s'en souviendront avec moi. Le mardi 1er octobre, nous avons commencé l'année avec un sujet de rentrée, un sujet scolaire, la laïcité à l'école, que faut-il promouvoir, jusqu'où aller, avec M. Claude Tellot et M. Jean-Luc Poutier. Le mardi 5 novembre, quelle place pour l'éthique dans l'entreprise, avec Sœur Cécile Renoir et M. Emmanuel Marchand. Le mardi 7 janvier, le chaos syrien et ses conséquences régionales, avec Mme Basma Khodmani et M. Frédéric Pichon. Le mardi 4 février, quelle influence pour la France dans le monde d'aujourd'hui, avec M. Gilles Andréani, M. Douglas Herbert et M. Peter Gumbel. Le mardi 4 mars, un an après son élection, où nous conduit le pape François, avec Mgr Claude Dagens et M. Frédéric Mounier. Le mardi 1er avril, politique peut-on encore y croire, ce n'était pas un poisson d'avril, avec M. Philippe Meyer et M. Marc Mortureux. Enfin, le mois dernier, le mardi 6 mai, en partenariat avec la revue Projet, comment se réapproprier l'Europe, avec M. Pierre Defraigne et M. Denis Clerc. Grande diversité de thèmes, de sujets, donc, avec des intervenants qui ont toujours manifesté une généreuse disponibilité pour ces soirées, malgré un agenda bien chargé. Cette soirée d'éthique publique est donc la dernière de cette année universitaire. Permettez-moi un mot plus personnel, elle est également pour moi la dernière que j'ai la chance d'organiser et d'animer, la dernière d'une longue série qui a commencé en octobre 2008. Et je voudrais vous remercier de votre confiance tout au long de ces années. Ce fut toujours une joie de vous retrouver le premier mardi de chaque mois pour déchiffrer ensemble l'actualité, pour réfléchir aux enjeux qui travaillent nos sociétés. Merci de votre fidélité. Certains ont été particulièrement assidus. S'il y avait eu des cartes de fidélité, elle aurait été complète. Fidélité qui nous a encouragés à faire vivre cette proposition qui semble rejoindre les attentes et les préoccupations de beaucoup. Et puis, c'est évidemment aussi une joie d'avoir peu à peu élargi l'espace de notre tente, si je puis dire, et d'avoir désormais ces liens avec nos amis de Chaville, Poitiers, Bordeaux, Saint-Étienne, Lyon, Aix-en-Provence et Athènes, que je salue particulièrement ce soir par vidéo interposée. Merci aussi à vous de votre confiance. Les soirées d'éthique publique vont bien sûr continuer et nous espérons que vous serez au premier rendez-vous de la rentrée le mardi 7 octobre. Et c'est le père Henri Lot, le président du Centre Sèvres, qui prendra désormais soin de ces rencontres et je l'en remercie à l'avance. Voilà, ce soir pour terminer l'année et avant des vacances bien méritées, nous allons nous arrêter sur un sujet d'actualité, même s'il a, nous le savons, des racines dans l'histoire. Je veux parler de la situation en Ukraine et pour introduire le sujet, peut-être n'est-il pas inutile de nous rappeler brièvement l'enchaînement des événements de ces derniers mois. En novembre 2013, alors qu'il s'apprêtait à signer un accord d'association avec l'Union européenne, le président en exercice, Viktor Yanukovych, va opérer un revirement. Il décide de se tourner vers Moscou, qui propose à l'Ukraine un prêt avantageux pour les finances du pays. Et aussitôt, à Kiev, des milliers de manifestants vont protester contre ce changement et vont descendre sur la place de l'indépendance, lieu de ce qui fut la Révolution orange 10 ans plus tôt. 2 mois après le début de cette contestation, Viktor Yanukovych fait passer une série de lois qui réduisent la liberté d'expression, mais cette décision ne va pas entamer la volonté des manifestants qui tiennent bon sur la place. Mais le 19 février, Kiev va basculer dans la violence. Les affrontements éclatent entre manifestants et forces de l'ordre, et en 3 jours, ils vont faire des dizaines de victimes. Des diplomates européens dépêchés sur place vont arracher un accord entre les belligérants sur la fin des affrontements. Mais les jours qui suivent, le président Yanukovych est destitué et un président par intérim est nommé. Pourtant, le vent pro-européen qui souffle sur Kiev ne souffle pas sur toute l'Ukraine. La partie est du pays est largement pro-russe, de même que la Crimée. Et dans cette péninsule, ne tarde pas à se déployer des militaires qui vont peu à peu prendre le contrôle de la Crimée et mettre en place un nouveau gouvernement. Après l'organisation d'un référendum, la Crimée est rattachée à la Russie. À nouveau, un mois plus tard, à la mi-avril, le même scénario se produit dans les régions de l'est de l'Ukraine, mais cette fois-ci, Kiev va décider d'intervenir et d'envoyer ses soldats pour éviter la reproduction de ce qui s'est passé en Crimée. Des affrontements ont lieu entre les deux camps, se soldant parfois par de nombreuses victimes, et la situation, nous le savons, n'est pas complètement stabilisée. C'est dans ce contexte que viennent d'avoir lieu, il y a quelques jours, les élections présidentielles, prévues par le Parlement ukrainien dès la destitution de Yanukovych. Elles ont vu la victoire de M. Petro Poroshenko, riche homme d'affaires ukrainien, même si de nombreux électeurs, en Crimée bien sûr, et dans les régions est de l'Ukraine, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu voter. Dans cette crise ukrainienne, la Russie, mais aussi les États-Unis, ont joué évidemment un rôle important. L'Europe, qui aurait dû être la première concernée, a peut-être eu du mal, nous pourrons peut-être en débattre, à tenir sa place. Alors que faut-il comprendre de ces mois écoulés? Comment en est-on arrivé là? Alors que la Russie semble redevenue incontournable sur la scène internationale, l'ouverture de l'Ukraine à l'Europe s'est-elle faite sans tenir compte de l'histoire et des intérêts russes? La fragile démocratie ukrainienne et les aspirations légitimes de la majorité de ses habitants peuvent-elles traverser cette épreuve? Un système fédéral est-il envisageable? Quelle sortie de crise possible? Pour nous aider à y voir clair, c'est une grande joie et un grand honneur d'accueillir nos invités. D'abord, Madame Hélène Carrère-Dancos, merci beaucoup, Madame, d'être avec nous ce soir. Vous êtes née à Paris, descendante d'une famille d'aristocrates géorgiens que l'esprit cosmopolite et la révolution russe avaient de longue date dispersé à travers l'Europe. Une famille qui compte parmi ses ancêtres de grands serviteurs de l'Empire russe, comme le président de l'Académie des sciences, sous Catherine II, mais aussi de virulents contestataires du même empire. Cette hérédité vous prédisposait sans doute naturellement à l'étude de l'histoire, de la science politique que vous avez enseignée, notamment à la Sorbonne et à l'Institut d'études politiques de Paris, mais aussi dans de nombreuses autres institutions comme le Collège d'Europe à Bruges. Et vous avez ainsi aidé beaucoup de nos contemporains à découvrir, à comprendre le monde russe. Tous les étudiants en droit, relations internationales, sciences politiques, je fus l'un d'eux, ont lu « L'Empire éclaté », paru en 1978, ouvrage majeur qui annonçait beaucoup des événements qui allaient se produire un peu plus de 10 ans après. Depuis lors, à travers une œuvre importante, vous n'avez cessé d'accompagner les grandes mutations de cette partie du monde. Je ne cite que quelques ouvrages, mais dont les titres parlent des évolutions et des enjeux du monde russe. Le pouvoir confisqué en 1980 chez Flammarion, Ni paix ni guerre en 1986, Le malheur russe chez Fayard en 1988, Victorieuse Russie en 1992, La Russie inachevée en 2000, L'Empire d'Eurasie toujours chez Fayard en 2005, enfin La Russie entre deux mondes en 2010, sans oublier celui paru l'an dernier, les Romanov, une dynastie sous le règne du sang. Mais votre travail d'historienne, de politologue, spécialiste du monde russe ne vous a pas tenu à distance des responsabilités. Membre de la commission des sages pour la réforme du code de la nationalité en 86-87, vous avez également occupé le poste de conseiller auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, participant ainsi à l'élaboration d'une politique d'assistance à la démocratisation des anciens États communistes. Élu au Parlement européen en juin 1994, vous avez été vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. En 2004, vous devenez président du Conseil scientifique de l'Observatoire statistique de l'immigration et de l'intégration. Votre œuvre, votre amour de la langue française vous conduiront à l'Académie française où vous avez été élu le 13 décembre 1990 au fauteuil de Jean Missler, avant d'être élu quelques années plus tard, le 21 octobre 1999, secrétaire perpétuel de l'Académie. Merci beaucoup de votre présence ce soir qui nous honore. Avec nous également Monsieur Bertrand Dufour, ambassadeur de France. Énarque, vous avez accompagné la diplomatie française durant toute votre carrière. Vous serez notamment ambassadeur à Brazzaville en 1976, puis directeur Europe au ministère des Relations extérieures de 1979 à 1984, directeur de cabinet de Claude Cheysson, puis chargé de mission auprès de Roland Dumas au ministère des Relations extérieures, ambassadeur près du Saint-Siège de 1985 à 1988. Vous reviendrez au Quai d'Orsay comme directeur des affaires politiques. Et c'est là notamment que vous aurez à participer de près aux négociations concernant la réunification de l'Allemagne. Ambassadeur à Moscou, au début des années 90, lorsque l'URSS laisse la place à la Russie, puis à Berlin, vous serez nommé ensuite secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, poste que vous occuperez durant 5 années, durant lesquelles, entre autres dossiers délicats, vous avez eu à suivre pour la France le dossier irakien. Vous êtes donc tout particulièrement bien placé pour nous aider à décrypter ce qui est en jeu politiquement, diplomatiquement dans la crise ukrainienne. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Voilà, comme à l'habitude, eh bien, nos invités vont s'exprimer pendant 20 minutes environ chacun avant que nous ouvrions entre nous le débat. Et sans plus attendre, eh bien, je laisse la parole à Madame Hélène Carrère-Dambos.
Merci mon père. Alors, je crois qu'on peut attendre d'une historienne qu'elle retourne aux origines. Et parlant de la crise ukrainienne, une crise qui oppose l'Ukraine à la Russie, que j'essaye de dire quelques mots des relations de l'Ukraine et de la Russie et du moment où cette crise commence à prendre forme. Le début de l'histoire, on ne peut pas retourner avant le régime soviétique parce que ce serait trop long. Le début de l'histoire se situe en décembre 1991, à l'heure où Boris Eltsine, qui préside aux destinées de la Russie, dans une ville d'Acha de Biélorussie, avec le président ukrainien et le président biélorusse, proclame l'indépendance de l'ensemble des républiques qui ont fait partie de l'Union soviétique et la fin de l'Union soviétique. C'était un geste remarquable, c'était la fin. C'est un geste extraordinaire. C'est la fin d'un empire que le maître de l'empire décide tout seul. C'est aussi la fin du communisme, du système communiste. C'est donc quelque chose d'exceptionnel. Et je voudrais juste dire un mot ici. On cite toujours la phrase de Vladimir Poutine, puisqu'il est le grand acteur de la période actuelle. La plus grande catastrophe géopolitique d'histoire, c'est la fin de l'URSS. Je crois qu'on ne la comprend pas. Ce qu'il a voulu dire, c'est que la fin d'un empire est toujours une catastrophe géopolitique. Et dans la fin d'un empire doublé de la fin d'un système que l'on pensait éternel, qui modifiait complètement les rapports du pouvoir avec les hommes, c'est quelque chose qui est un tel ébranlement que c'est une catastrophe. Et ça s'appelle une catastrophe géopolitique. Et Solzhenitsyn, qui n'est pas, qu'on ne peut pas comparer à Hitler, puisqu'on a comparé Poutine à Hitler, a aussi employé le mot de catastrophe pour cela, parce que c'est quelque chose qui ébranle une société au plus profond d'elle-même et dont elle a beaucoup de mal à se remettre. Alors, au moment où se fait cet ébranlement, Boris Eltsine avait déjà dit, juste avant, alors qu'il n'était pas encore au pouvoir, il avait dit « Je sais que l'Empire est terminé et ce que j'espère sauver, c'est la solidarité des trois États slaves, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. » Et au moment où il prend cette décision, au moment où il parafe le texte, ses collaborateurs ont essayé de le retenir. Ils lui ont dit « Attention, l'Ukraine, bon, tout le monde est indépendant, mais attention à la Crimée. La Crimée, elle n'est pas dans les frontières de l'Ukraine. Elle lui a été donnée comme ça légèrement par Nikita Khrushchev en 1954, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est un acte politique qui avait un rapport avec, je dirais, avec l'histoire soviétique. Et de surcroît, ajoutent certains de ses collaborateurs, n'oubliez pas que Sébastopol n'est pas dans les frontières de l'Ukraine à laquelle vous donnez l'indépendance, puisqu'il s'agit de donner l'indépendance dans les frontières soviétiques. Sébastopol, bon, ça joue dans l'histoire actuelle. Et la réponse de Boris Eltsine a été, si nous voulons fonder un univers d'amitié avec nos anciens États sujets, c'est en étant généreux. Et c'est pour cela qu'il n'est pas possible de discuter là-dessus. Ils auront la Crimée, Sébastopol et tout. Bon, les choses n'ont pas tourné exactement comme ça. Et à la place de l'Empire d'Issou, il fallait faire quelque chose. on a inventé une structure. Tous les empires disent ou cherchent comment maintenir des liens avec leurs anciens administrés, et on a inventé une structure qui s'appelait la Communauté des États indépendants, la CEI, avec, je dirais, une description, ça c'était l'institution, une description vraiment géopolitique, comment s'appelait cet espace, ça s'appelait dans l'esprit des fondateurs russes, l'étranger proche. L'étranger proche, c'est pour définir, au fond, ces liens qui doivent être maintenus avec les anciens partenaires. Et la CEI comporte d'abord les trois États slaves, simplement, pendant 6 jours. Et comme le président du Kazakhstan, le président Nazarbayev, toujours au pouvoir au Kazakhstan, a été très indigné de cette liquidation de l'Empire où on avait demandé la vie de personne, il s'est rebellé, il a dit « ce n'est pas possible, nous sommes très contents d'être indépendants, mais pas comme ça ». Et on ne peut pas tout défaire sans prendre des précautions. Enfin, il faut passer par un stade transitoire. Et c'est lui qui a imposé le second stade, c'est-à-dire la communauté des États indépendants, comportant tous les anciens États de l'URSS, sauf la Géorgie et les États baltes, qui n'ont pas voulu y adhérer. Bon, l'Ukraine se trouve là-dedans, mais elle a été, je dirais, d'emblée, un acteur non seulement indocile, insoumis, rétif, rebelle, de cette communauté des États indépendants. Il y a des États qui y sont rentrés parce qu'il fallait maintenir quelque chose. Les Ukrainiens ont marqué d'emblée que pour eux, c'était tout simplement un moyen de divorcer de la Russie, de s'en séparer, de s'en éloigner d'une façon civilisée et qui ne fasse pas de conflit. Et dans les années qui ont suivi, la CEI s'est accompagnée d'institutions complémentaires, de sécurité collective, d'institutions économique, de solidarité économique, et l'Ukraine a refusé d'en faire partie. Elle a refusé d'adhérer à cette charte d'une communauté assez élargie. Et non seulement elle a refusé, mais elle a, en 1997, ça se situe à la fin de l'année 91, en 1997, avec d'autres membres de la CEI, c'est-à-dire avec la Géorgie, qui avait rejoint la CEI, mais d'ailleurs qui en ressortira, avec l'Ouzbékistan qui y adhéra un peu plus tard, avec l'Azerbaïdjan et la Moldavie, ils forment une espèce d'ensemble qui s'appelle le GUAM, et ce GUAM, c'est une sorte, pour les acteurs de cette alliance, c'est une sorte d'alliance de la mer Noire, pratiquement anti-CEI, destinée à avoir une politique indépendante en mer Noire. Alors, je voudrais tout de suite rappeler quelque chose, c'est que la Russie, qui avait 1600 km de côte sur la mer Noire. La mer Noire, c'est l'eau. Il y avait la fenêtre ouverte sur la Baltique, sur l'Ouest, et la fenêtre ouverte sur les mers du Sud. Et la Russie avait 1600 km de côte sur la mer Noire. Après décembre 91, elle n'en a plus que 400. Et des côtes, je veux dire, c'est les moins belles, entre parenthèses, mais enfin, c'est un autre problème. Bon, vous voyez, c'est tout de même un sacrifice considérable pour prix de quelque chose qu'on a essayé d'appeler une amitié et qui ne fonctionne pas d'emblée. Bon, malgré tout, je dirais que Eltsine n'a pas fait la mauvaise tête, il n'y a pas eu de drame, et au contraire, le GUAM a été créé en 1997. La même année, la Russie signe un accord sur le partage de la mer Noire avec l'Ukraine. Elle va signer à la même, peu après, un accord d'amitié et de coopération qui se transforme en un accord économique l'année suivante. Donc, si vous voulez, il y a, au fond, la Russie fait le gros dos et se dit que ça s'arrangera d'une façon ou d'une autre, même si ça ne s'arrange pas. Alors, on peut dire que le système a tenu plus ou moins bon jusqu'au début du XXe siècle. Est arrivé Vladimir Poutine, en 2000, qui, au début, n'a pas très bien su comment prendre le problème. Il avait d'autres préoccupations. La Russie était très faible, chaotique lorsqu'il est arrivé au pouvoir. On peut dire que les choses sont restées à peu près en l'état dans les premières années du XXIe siècle. Et puis, il y a eu la Révolution orange. Je ne peux pas élaborer, mais il y aura une discussion pour préciser. Via la Révolution orange, et là, pour la Russie, je dirais que ça a été l'explosion qui confirmait toutes les tendances de l'Ukraine, parce que ce qu'avait été le GUAM, c'est-à-dire se tourner vers le monde occidental, c'est, au fond, ça marquait que l'Ukraine voulait aller de l'autre côté, tourner le dos à la Russie, et entre-temps, il y a un acteur qui joue un rôle considérable, ce sont les États-Unis, et la tentation de l'OTAN, c'est-à-dire la tentation d'adhérer aux instances occidentales, c'est là à la fois l'Union européenne et la tentation d'aller vers l'OTAN. Alors, la Révolution orange, avec le triomphe de l'équipe Yushchenko, le président Yushchenko était un homme de formation américaine et sa femme avait même été fonctionnaire américain. Donc, c'était des gens qui étaient très proches des États-Unis. C'était un homme remarquable, incontestablement. Et puis, Mme Timoshenko, que nous allons retrouver tout à fait récemment, qui, elle, était, je dirais, était plutôt... Elle venait de l'Ukraine, de la partie russe de l'Ukraine, ou de la partie russophone de l'Ukraine. C'était une femme d'affaires qui, très curieusement, s'est transformée en un instant en une paysanne ukrainienne du XIXe siècle, comme on n'en voyait plus en Ukraine, avec une jolie natte, enfin, des tenues. C'était très stupéfiant. Mais en tout cas, elle avait appris l'ukrainien à cette occasion et c'était destiné à montrer qu'elle incarnait l'Ukraine. C'est un peu stupéfiant, mais enfin, peu importe. En tout cas, arrive la Révolution orange et là, pour la Russie, ça apparaît, comme je schématise, mais véritablement comme une opération occidentale, une opération manipulée où la main des États-Unis a été tout de suite dénoncée. Alors, pour être honnête, c'était une révolution contre la corruption, contre un système qui véritablement était inefficace, une révolution sympathique, populaire, mais il y a eu aussi, pour qui a été sur le terrain, je dirais, des organisations non gouvernementales, étrangères, qui jouaient un rôle. Enfin, ça n'était pas totalement innocent. C'était comme dans beaucoup d'événements comme ça, il y a de tout. Et surtout, le temps aidant, on voit très bien jouer des acteurs qui ne sont pas les acteurs d'origine. La Russie en a fait un drame, enfin, véritablement, la révolution manipulée, etc. Et on comprend très bien que l'obsession, alors à partir de ce moment-là, de Vladimir Poutine, a été de donner un coup d'arrêt. Alors, le coup d'arrêt, une fois encore, je schématise parce que le temps me manque, le coup d'arrêt, ce n'est pas en Ukraine qu'il a pu le donner, parce que l'Ukraine est décidée... Pardon, excusez-moi, mais c'est l'horreur, ça. L'Ukraine est un pays décisif pour la Russie. Brzezinski, que j'aurai l'occasion de reciter, qui était un des acteurs de la politique américaine et qui a une influence considérable sur la politique américaine et un esprit très lucide, avait écrit en 1997 « La Russie, toute construction de la Russie sans l'Ukraine fait que la Russie n'a plus de rôle international ». Et ça, c'était très important. Il avait c'était le point de vue de la Russie, c'était aussi le point de vue de l'analyste qui savait très bien ce qu'était l'histoire et ce que représentait l'Ukraine dans les positions russes. Juste un mot, l'Ukraine, il faut le rappeler tout de même, l'Ukraine et la Russie sont plus ou moins un même pays au IXe siècle. Elles sortent du même terreau et même si l'histoire, l'Ukraine est rentrée dans l'espace de l'Empire russe en 1654 d'abord, quand une partie a été rattachée par un chef cosaque qui voulait arracher ses compatriotes son groupe cosaque à l'autorité de l'État du royaume polono-lituanien, qui était véritablement la grande puissance dominante à ce moment-là. Ce n'était pas la Russie, c'était l'État polono-lituanien, et la Russie s'est substituée à l'État polono-lituanien. Vous voyez les acteurs de l'époque actuelle qu'on retrouve dans un lointain passé. Puis, progressivement, la Russie a occupé davantage d'espace en Ukraine, et l'Ukraine s'est retrouvée partagée au XIXe siècle entre sa partie intégrée dans l'Empire russe et sa partie intégrée dans l'Empire austro-hongrois. Mais néanmoins, de cette partie ukrainienne intégrée dans l'Empire russe, le reste rejoindra cette partie en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, reste qu'il y a une population remarquablement importante russe en Ukraine, que les mariages mixtes entre Ukrainiens et Russes sont une tradition, et au fond qu'il y a une familiarité russo-ukrainienne, je ne dirais pas une similarité, mais une familiarité extrêmement profonde. Bon. Que les Russes ressentent, que les Ukrainiens ont commencé à moins ressentir en se souvenant d'un certain nombre de méfaits, de la domination soviétique notamment, de ce qui leur a été infligé après la Révolution et en 1933 et à la fin de la guerre. Bon, mais ces tragédies, la Russie ne les ressent pas comme siennes. Alors, on peut dire que le coup d'arrêt, où le donner, la Russie ne pouvait pas taper sur l'Ukraine, c'était évident. Elle l'a donné en Géorgie en 2008. l'opération de Géorgie, la guerre en Géorgie, la guerre de 5 jours, était en partie destinée à démontrer que ces deux grands rebelles de l'étranger proche n'avaient pas le droit d'aller là où ils voulaient aller, vers l'OTAN, que leur destin, qu'ils appartenaient à l'étranger proche, et que l'étranger proche n'était pas négociable. Bon, on n'a pas le temps, mais Vladimir Poutine, à la conférence sur la sécurité de Munich en 2007, a très bien exposé ce qu'était la conception du monde multipolaire de la Russie. Au fond, il a bien montré quelles étaient les règles que la Russie pensait que se conformer et auxquelles elle entendait que les autres se conforment. Bon, on peut dire que les choses se sont pas mal passées, c'est-à-dire peu après l'opération, c'est 2008, l'été 2008, l'opération en Géorgie, dès 2009, on recommence à discuter dans le monde, et même on va entrer dans ce qui s'appelle le reset, c'est-à-dire la négociation russo-américaine. On essaye de reconstruire, on va essayer de reconstruire les relations au tournant de la décennie. Ce reset vient de s'effondrer, mais ça a été une période de coopération, ce qui prouve que les tragédies qui semblent irréparables sur le moment se réparent assez vite. Bon, cela dit, la Russie, à cette époque, commence à s'inquiéter véritablement, pas seulement des États-Unis, pas seulement des effets de Maïdan qui a disparu, puisque le président ukrainien qui vient d'être détrôné ou chassé du pouvoir a été réélu, mais elle commence à s'inquiéter aussi de l'Europe, de l'Union européenne, car l'Union européenne lui semble jouer un rôle extrêmement négatif avec... Alors c'est très compliqué, on n'a pas le temps de rentrer dans les relations de la Russie et de l'Union européenne, mais la Russie est à la fois fascinée par l'Europe, attirée par l'Europe, se sentant d'Europe, mais pas un État d'Europe ordinaire, un grand État que l'Europe doit considérer dans sa dimension, dans son importance historique, culturelle, qu'elle ne peut pas traiter comme un État de seconde zone. Et elle s'est inquiétée de l'influence qu'avaient les anciens États de l'Europe de l'Est qui étaient entrés dans l'Union européenne, dont certains, et principalement la Pologne, j'ai évoqué la Pologne tout à l'heure, ont considéré que leur entrée dans l'Union européenne devait se compléter, notamment de l'entrée de l'Ukraine pour la Pologne, c'est tout à fait une évidence, et qu'au fond, d'une certaine façon, serait achevé le démantèlement de l'Union soviétique et une certaine puissance russe. Bon, pour la Russie, c'est insupportable. Et du coup, je dirais, tous les projets, elle se sent rejetée, aussi sous la pression, surtout de la Pologne, une fois encore. Et c'est brutal ce que je dis, mais j'essaie de vous donner le point de vue russe. Elle se sent rejetée par l'Union européenne et les projets européens, comme la politique européenne de voisinage ou le partenariat oriental, qui ont essayé de l'associer, lui semblent être un empiétement de l'Union européenne sur son voisinage à elle, sur son étranger proche. Et par conséquent, c'est dans cette lumière qu'elle verra l'accord d'association passé entre l'Ukraine et l'Union européenne à la fin de l'année 2013. C'est-à-dire, et en effet, l'Union européenne était un petit peu brutale. C'était, vous choisissez. Pour l'Union européenne, c'est le sentiment que le glissement s'opère, que l'Union européenne, et principalement dans ce pays important qu'est l'Ukraine, essaye de lui arracher son étranger proche et, au fond, de construire une barrière, de l'isoler. Et il y a des tas de discours, d'ailleurs, qui existent là-dessus. J'ai repoussé la Russie vers l'Asie. Et alors, c'est d'autant plus dommageable pour la Russie que c'est l'époque où Vladimir Poutine s'engage dans la construction de son espace, d'abord de son union douanière, de son union économique et de cette entité eurasienne qui n'est pas de son invention. Je voudrais vous dire que la notion d'Eurasie, on raconte tout ce qu'on veut aujourd'hui, y compris que M. Dugin, qui est un théoricien de troisième catégorie, virulent, mais de troisième catégorie, a une influence considérable, c'est pas ça. La vérité, c'est que l'idée de cette union eurasienne, elle a été proposée en 1994, toujours par Nazarbayev, c'est-à-dire Nazarbayev qui cherchait sur quoi fonder solidement cet espace nouveau né de la décomposition de l'Union soviétique, et où la Russie ne serait pas la seule maîtresse du terrain. Union eurasienne, ça signifie que les anciennes républiques asiatiques, celles d'Asie centrale, le Kazakhstan aurait un rôle important. C'était ça son idée. Et bon, il reste de ce projet, quand Vladimir Poutine sent véritablement la situation si difficile, il joue la carte de cette union eurasienne, et ce qu'il essaie de fonder, c'est ce qui a été signé il y a quelques jours, mais ça avait été préparé depuis des années. C'est cet ensemble dans lequel rentrerait idéalement l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, et puis les pays, l'Arménie, puis les Asiatiques qu'ils veulent. Mais sans l'Ukraine, ça n'a aucun sens. S'il n'y a pas l'Ukraine là-dedans, alors la Russie est tirée hors de son espace. Et déjà, la Biélorussie n'est pas un partenaire commode pour elle, loin de là. Donc tout cela, si vous voulez, est à l'origine de cette crise. Et ça explique très bien pourquoi, véritablement, l'accord d'association a été un détonateur. Alors là-dessus, ça a tourné vers les manifestations que nous connaissons. Et je terminerai là-dessus parce que l'ambassadeur Dufour, qui est beaucoup plus compétent que moi pour démêler la situation actuelle, ça aboutit d'abord à la crise qu'on compare à la guerre froide. Ça, je crois que c'est une erreur. Il n'y a pas de guerre froide du tout. Deuxièmement, à la fin du reset, mais ça, les resets, ça peut se réparer. Et ça aboutit à quelque chose qui est assez dramatique, à la Crimée. La Crimée est sortie de l'espace ukrainien et avec un argument qu'on avait déjà vu dans la guerre de Géorgie, c'est-à-dire la défense, la Russie défenseur des siens. Le gouvernement ukrainien a eu le gouvernement issu de Maïdan a eu la folie de proclamer que la langue russe ne devait plus être la langue dont useraient les minorités russophones. La Crimée a flambé là-dessus. Il s'est dédié tout de suite, mais une fois qu'on a fait une gaffe pareille, il est très difficile de calmer les esprits. Et ça a conduit la Russie à cet acte sur lequel il faut s'interroger, et je crois qu'il faut s'interroger en droit international, c'est-à-dire à récupérer la Crimée à la suite d'un référendum, un rattachement. C'est, pour la Russie, c'est un vrai problème. C'est un problème international, mais je terminerai en disant que c'est un problème pour la Russie, car au fond, la Russie a fondé tout le démembrement de l'Union soviétique et ses relations avec les anciens États de l'Union soviétique sur un point, sur un engagement. On ne touchera pas aux frontières. Les frontières sont des frontières intangibles, les frontières nées de ce démembrement. Et on peut dire que la Russie oppose aux Japonais qui veulent récupérer les Kouriles exactement la théorie de l'inamovibilité des frontières. Cet engagement a été rompu. Ça fait peur d'ailleurs à tout le monde. La Biélorussie n'est pas contente. La plupart des anciens États s'interrogent. Et les voisins aussi, et les Chinois qui ont des problèmes de frontières, et tout le monde. Mais il reste que la Russie accomplit, en effet, que là, Vladimir Poutine a fait un pas de clair. Alors, on en tire la conclusion facilement qu'il va faire tous les pas de clair et qu'il est parti pour reconstruire l'Empire. Dernier mot, je ne crois pas qu'il y ait un homme réaliste. Il sait qu'on ne reconstruit pas un empire. Il a pris ce qui se trouvait à sa portée et ça lui vaut une popularité extraordinaire puisque d'une popularité de 50%, il passe à 80% parce que malgré tout, pour les Russes, la perte de la Crimée, ça avait un sens. Je vous remercie et j'arrête là. 20 minutes exactement.
Merci beaucoup, madame, de nous avoir aidé à entrer dans la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui à partir de cette histoire récente et notamment en partant de la fin de l'Union soviétique, la fin de l'Empire, cette catastrophe géopolitique et de voir combien le souci de M. Eltsine de fonder un univers d'amitié entre la Russie et les États indépendants, les nouveaux États, va conduire d'abord à laisser la Crimée à l'Ukraine, à créer la communauté des États indépendants, mais que cela ne suffira pas à permettre que l'étranger proche puisse être maintenu. Alors, Moscou s'est inquiétée de l'Europe, elle s'est sentie rejetée et l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine arrive un peu dans ce contexte comme un détonateur et la crise que nous avons connue depuis illustre bien combien pour la Russie il était difficile de laisser cette situation comme telle. Alors, on nous a promis que vous allez démêler la crise. Je vous laisse la parole, Monsieur Dufour.
Merci. Madame Carrère-Dancos a fait une présentation historique tout à fait intéressante et pour ma part que je trouve totalement juste sur le plan historique, mais c'était une présentation vue essentiellement du côté de la Russie. Moi, je voudrais avoir un regard un petit peu différent. Et d'abord rappeler un souvenir. Lorsque j'étais ambassadeur à Moscou dans l'année 91, c'était le moment où Gorbatchev, pendant l'été, a essayé par tous les moyens de préserver un minimum d'union qui n'aurait pas contenu beaucoup d'éléments très positifs, mais une sorte d'habillage. Et à ce moment-là, Yeltsin était prêt à marcher. Et celui qui a fait échouer la chose, c'est Kravchuk, c'est l'Ukrainien. Et là, l'Ukrainien, comme vous savez, a fait une déclaration d'indépendance suivie d'un référendum au mois de septembre. Et là, on a vu que l'idée d'un minimum d'union tel que Gorbatchev l'avait envisagé était mort. C'est pour dire qu'il y a quand même en Ukraine une résistance farouche et une crainte malgré tout du grand voisin russe. Et je crois qu'il faut en tenir compte. Alors, je voudrais revenir sur cette crise ukrainienne. Pour moi, cette crise ukrainienne est un révélateur. Le révélateur de l'incapacité de la Russie et de l'Union européenne de bâtir une relation stable et apaisée. Comme on le voit, la méfiance est là de tous les côtés. Alors pourquoi cet échec? Je pense qu'il faut essayer d'analyser les motivations et les comportements des deux protagonistes. La Russie d'abord. Poutine n'est ni le diable, ni Hitler, quoi qu'en pense le prince Charles. Il est avant tout un révisionniste pour qui la disparition de l'Union soviétique, et comme l'a rappelé Mme Carrère-Dancos, est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. En découle une vision stratégique, un projet de long terme, qui vise à reconstituer non pas l'Empire soviétique, mais plutôt un espace d'influence privilégié, le monde russe, Rouski Mir, qui englobe les Russes ethniques et les russophones, pour la protection desquels Poutine a d'ailleurs obtenu de la Douma un droit d'intervention hors frontières. Cette restauration, cette reconstitution d'un espace passe d'abord par un renforcement de la puissance militaire, motif de fierté retrouvé pour le peuple russe, et en second lieu, par la création de l'Union économique eurasienne. L'Ukraine, pour des raisons historiques, mais aussi stratégiques, économiques et religieuses, doit impérativement en faire partie. L'ensemble devra affirmer sa différence, ses propres valeurs, face à une Europe occidentale dont, aux yeux de Poutine, mais y croit-il vraiment? Aux yeux de Poutine, le déclin est inévitable, la décadence morale évidente, la capacité d'innovation en recul, les moyens militaires orientés à la baisse, et ceci précisément au moment même où le monde unipolaire est mort et où la puissance se déplace vers l'Asie. Un tel projet, aux yeux de Poutine, ne peut que faire face à l'hostilité de l'Occident et avant tout à celle des États-Unis via l'Europe, via l'OTAN élargie, mais aussi à celle de l'Union européenne à travers sa politique de voisinage. Intervient ici le traditionnel complexe d'encerclement de la Russie qui, aux yeux des Européens, paraît relever du pur fantasme, mais constitue en réalité un élément essentiel de la psyché russe et dont il faut tenir compte. Après tout, on peut comprendre que la Russie s'inquiète de voir un jour Sébastopol sous le feu d'une hypothétique base de l'OTAN en Ukraine. Voilà pour la stratégie de Poutine. La tactique est beaucoup plus pragmatique et partant plus imprévisible. Venant d'un ancien du KGB, elle ne s'embarrasse pas de considérations morales, ni d'ailleurs juridiques. Seul compte le rapport de force que l'on crée et que l'on exploite, surtout si l'adversaire vous en offre l'occasion et si la politique intérieure peut en tirer profit. la palette des moyens relève plus de la politique de force. C'est le veto au Conseil de sécurité, c'est la menace d'arrêt des livraisons de gaz, ce sont les mouvements de troupes, ce sont les opérations de déstabilisation, plutôt que du soft power, même si ce dernier n'est pas négligé et il l'est de moins en moins. Venons-en maintenant à l'Union européenne. Après la fin de l'Union soviétique, les Européens n'ont pas adopté une attitude négative à l'égard de la Russie et, contrairement à ce que l'on entend de ci, de là, ils n'ont pas cherché à humilier la Russie. Souvenons-nous des efforts de Bérégovoy que j'ai constatés et du Club de Paris pour le traitement de la dette russe, de la création de la BERD, des nombreux programmes de coopération économique. Plus récemment, les Européens ont appuyé l'admission de la Russie au G7 et c'est la France et l'Allemagne qui, au sommet de l'OTAN à Bucarest, se sont opposés avec succès à ce que l'Ukraine soit invitée à adhérer à l'Alliance Atlantique. En revanche, faute d'un vrai leadership, l'Union européenne a été incapable de bâtir dans la durée une politique cohérente à l'égard de la Russie. Bruxelles, en particulier, a commis des maladresses en voulant, dans un premier temps, traiter Moscou dans le cadre de la politique de voisinage au même titre que la Moldavie, sans tenir compte de la spécificité de la Russie, qui revendique à juste titre le rôle d'un acteur global, comme on le voit pour la Syrie, l'Iran et dans beaucoup d'autres cas. Le partenariat stratégique oriental qui a été mis en place en 2003 avec la Russie, qui définissait de façon très bureaucratique 4 espaces communs de coopération, n'a jamais vraiment fonctionné, parce que les Européens n'ont que très rarement adopté des positions cohérentes, chacun agissant en ordre dispersé au gré de ses intérêts nationaux. Parallèlement, l'Union européenne menait une politique de voisinage visant à assurer aux États concernés stabilité, sécurité, prospérité et modernisation dans le respect de l'État de droit. Mais s'agissant de l'Ukraine, la Commission, qui était chargée de la négociation d'un accord d'association sur mandat des gouvernements, n'a guère tenu compte du contexte géopolitique, obligeant le gouvernement de Kiev à faire un choix exclusif en direction de l'Union européenne, ce qui ne pouvait que braquer Moscou, qui voyait ainsi compromise sa stratégie de long terme et de surcroît craint comme la peste la possible contagion du modèle européen et de ses valeurs dans un espace où elle revendique, unilatéralement bien sûr, des droits et responsabilités. C'est dans ce contexte qu'éclate la crise ukrainienne. Il s'agit d'un enchaînement d'actions et de réactions que le père a très bien décrit, je n'y reviens pas. Je voudrais seulement insister sur l'accord qui a été négocié le 21 février de cette année par les ministres des Affaires étrangères de France, d'Allemagne et de Pologne. Accord qui a été signé par Yanukovych et par les représentants de l'opposition et qui prévoyait une réforme de la Constitution, en fait un retour à la Constitution de 2004, un gouvernement de coalition et des élections présidentielles fin 2014. Cet accord a été remis en cause dès le lendemain par la mouvance de Maïdan qui exigeait le départ immédiat de Yanukovych, lequel Yanukovych, comme vous savez, a pris la fuite le 23 février. C'est là, à mon avis, le moment où la crise prend une autre dimension. Parce que Poutine, qui avait fait pression sur Yanukovych pour qu'il signe le 21 février, s'est senti, pardonnez-moi l'expression, s'est senti floué, considérant que les Européens n'avaient pas assuré le suivi de l'accord et n'avaient pas réagi à sa remise en cause. Il a craint de voir sa crédibilité atteinte face à une opinion surchauffée par une campagne anti-occidentale effrénée qui instrumentalisait sans retenue aucune le chauvinisme grand russe et les valeurs de l'orthodoxie. C'est alors qu'il a déclenché l'opération Crimée. Ceci pour expliquer l'enchaînement des événements, mais aucunement pour justifier une entreprise qui a violé de multiples engagements internationaux, la déclaration de 1994 par laquelle la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, la Chine reconnaissaient l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échange du renoncement de par celle-ci à l'arme nucléaire et à ses armes nucléaires. Il a violé également l'acte final d'Helsinki et tous les traités successifs de l'acte final d'Helsinki. Il a violé le traité sur le désarmement conventionnel en Europe en ce qui concerne les mesures de confiance. Bref, on peut dire qu'il a violé toute une série d'engagements internationaux. Par ailleurs, les méthodes qu'il a utilisées sont plus que contestables. Bref, une opération que l'on ne peut que condamner et sans aucune restriction. Alors, comment sortir de la crise ? Le bilan pour Poutine est finalement assez mitigé. Le succès que représente l'annexion de la Crimée, succès qui a porté la popularité du dirigeant russe au plus haut niveau, a pour contrepartie l'isolement international de la Russie, des sanctions moins indolores qu'on ne veut bien le reconnaître, une importante fuite de capitaux, des hésitations croissantes de la part des investisseurs, sans compter une OTAN revigorée. Surtout, le succès de Petro Poroshenko aux élections présidentielles du 25 mai, dès le premier tour, avec 55% des voix et à peine 3% pour l'extrême droite, alors que théoriquement, du côté russe, on prétendait que l'opinion ukrainienne était nazie quasiment à 30%. Cette victoire de Poroshenko lui assure une légitimité indiscutable et rend désormais problématique une adhésion de l'Ukraine au projet eurasien. À quoi s'ajoute, comme Mme Carrère-Dancos l'a bien dit, un regain de méfiance du Biélorusse Loukachenko et du Kazakh Nazarbayev, méfiance qui a été manifeste le 29 mai lors de la signature de l'accord sur l'Union économique eurasienne, accord qui a d'ailleurs finalement été expurgé de son volet politique. Autant de raisons qui poussent Moscou à rechercher une sortie de crise. La participation de Poutine et de Poroshenko aux cérémonies anniversaires du débarquement pourrait et devrait être l'occasion d'y contribuer. Dans le jeu de négociation qui va s'engager, car il va s'engager, Moscou cherchera à obtenir une fédéralisation aussi poussée que possible, la région du Donbass ayant capacité de passer des accords internationaux, un peu comme le Québec, et bénéficiant en outre d'un droit de veto sur les grandes orientations du pouvoir central. L'Ukraine deviendrait ainsi une sorte de Bosnie-Herzégovine, elle serait neutralisée militairement, et de surcroît, on ne verrait qu'avantage à ce que l'Union européenne règle les arriérés de la facture gazière et, si possible, finance la restructuration de la sidérurgie du Donbass. Voilà probablement l'idéal pour Poutine, idéal qu'il n'atteindra pas. De son côté, Petro Poroshenko voudra limiter le statut de l'Est ukrainien dans le cadre d'une simple régionalisation. Il réaffirmera sa volonté de maintenir l'accord d'association avec l'Union européenne. Sur le plan de la sécurité, il agitera sans doute la menace d'un accord de défense avec les États-Unis, mais peut-être, in fine, sera-t-il prêt à accepter une neutralisation de type finlandais. Quant aux Européens, ils devraient encourager Poroshenko à promouvoir la réconciliation avec les régions russophones conformément au mémorandum sur la paix et la concorde qui a été adopté par la Rada le 20 mai, et ceci en liaison avec l'OSCE. Il devrait aussi inciter le nouveau président à renoncer définitivement à toute adhésion à l'OTAN et le pousser à renouer très rapidement le dialogue avec Moscou. Reste le problème de nos relations avec la Russie après cette crise. Toute politique à l'égard de la Russie doit, me semble-t-il, être pensée et menée dans la durée. Or, les Européens n'ont pas de politique russe. La France et l'Allemagne sont ici très responsables. Elles auraient dû depuis longtemps mener une réflexion approfondie sur le moyen long terme, bien analyser leurs différences d'analyse et d'intérêt, qui sont très réelles, rechercher un consensus et le proposer à leurs partenaires. En la matière, je suis convaincu que le leadership franco-allemand est irremplaçable. L'Union européenne, et encore moins la France, ne saurait se couper de la Russie. La Russie, par sa culture, par son histoire, par son économie, fait partie de l'Europe. Il est indispensable de maintenir et de développer avec elle des liens dans tous les domaines, en se souvenant que même pendant la guerre froide, la coopération fut extrêmement active et féconde, et en observant aussi qu'en 2012, la Russie faisait 55% de son commerce extérieur avec l'Union européenne, contre 11% avec la Chine. Vladimir Poutine n'est pas éternel. La société civile évolue, se renforce. Je renvoie ici à l'excellent article de Mme Myriam Désert dans un des derniers numéros des études sur la société civile. La classe moyenne, lorsqu'elle aura satisfait son appétit de consommation, exigera une participation plus active au pouvoir. D'ores et déjà, la jeunesse, culturellement, regarde davantage vers l'Ouest que vers la Chine, une Chine qui, depuis toujours, suscite chez l'homme de la rue une méfiance et même une certaine crainte, quelles que soient par ailleurs les avancées de la coopération de Shanghai et l'intérêt du récent accord gazier. Il nous faut donc, me semble-t-il, combiner une politique de fermeté en établissant un rapport de force qui nous évite d'être soumis en permanence au chantage pétrolier et gazier, ce qui suppose une politique énergétique, un maintien de nos capacités militaires, la mise au point de scénarios de crise comportant éventuellement des sanctions économiques sévères, mais aussi d'autre part une politique d'ouverture et de coopération économique, culturelle et scientifique, par exemple en assouplissant notre régime de visa, en particulier pour les étudiants. Une observation pour conclure. Il ne faut pas se dissimuler qu'une politique européenne cohérente et de long terme à l'égard de la Russie rencontrera nécessairement des résistances, voire des oppositions du côté américain. Il faut assumer ce risque. Nos intérêts ne sont pas les mêmes. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être les gardes-frontières à l'est d'une zone euro-atlantique où Washington donnerait le la. S'il est un domaine où le concept d'Europe européenne garde tout son sens, c'est bien celui-là.
Merci beaucoup, Monsieur Dufour, de nous avoir permis d'avoir un autre éclairage et un autre regard sur cette situation en mettant en lumière l'incapacité de la Russie et de l'Union européenne à bâtir une relation apaisée. D'une part, Monsieur Poutine, qui a une vision stratégique visant à reconstituer un espace d'influence privilégié dont l'Ukraine fait partie pour lui, et une Union européenne incapable de bâtir dans la durée une politique cohérente avec la Russie. Alors, nous avons vu quand même qu'on pouvait regarder dans l'avenir, qu'il y avait des perspectives un peu malgré tout optimistes, malgré les difficultés, que les négociations allaient sans doute commencer, si elles n'ont pas déjà commencé, parce que la Russie n'est peut-être pas dans une aussi bonne posture qu'on peut le penser. Des négociations autour de la question de la fédération, de la régionalisation, de l'adhésion à l'OTAN et d'autres sujets d'importance restent pour l'Europe à penser, vous l'avez dit, vous avez insisté sur ce point, nous l'avons bien entendu, une véritable politique envers la Russie, une politique indépendante des États-Unis. Merci pour ces deux regards qui se complètent et sur lesquels je pense que nous allons pouvoir rebondir et poser un certain nombre de questions pour préciser les choses. Alors, comme nous en avons l'habitude, nous allons faire circuler le micro pour recueillir deux ou trois questions, interventions, convictions, avant de redonner la parole tout au fond. Levez bien la main pour qu'on vous voit bien avant de redonner la parole à nos invités. Voilà.
Oui, bonsoir et merci. Merci Monsieur Dufour, merci Madame Carrère-Dancos. Une question. Vous avez volontairement omis tout ce qui s'est passé avant 91. Pardonnez le béotien que je suis, mais si on ne rappelle pas un peu l'historique...
Parlez un peu plus fort, si c'est possible.
Pardon ?
Parlez un tout petit peu plus fort,
si c'est possible. Oui, je disais... Donc, oui, je tiens très mal le micro, pardon. Vous avez volontairement omis de parler de tout ce qui s'est passé avant 91. Le thème de ce soir, c'est... la crise ukrainienne et ses conséquences. Or, pour le peu que j'en sache, je suis un béotien, on ne peut pas comprendre cette crise ukrainienne si on ne sait pas ce qui s'est passé sous l'Union soviétique et sous l'Empire des Tsars. Personnellement, je ne le sais pas. Pourriez-vous nous le rappeler ?
Merci. On va prendre une autre question juste à côté, oui ?
Oui, sur le même sujet, je pense qu'on a, compte tenu de l'importance des sujets traités, laisser peu de place à la définition de ce qu'est la personnalité ukrainienne. Effectivement, la période austro-hongroise fait que dans l'ouest de l'Ukraine, on se croit en Europe avec une religion uniate qui est du catholicisme habillé en orthodoxie. Il faut tout de même mentionner, parce que dans la personnalité ukrainienne, ça pèse très lourdement, les 3 millions de morts que Staline a provoquées en affamant les paysans des terres les plus riches d'Europe. Je pense que un éclairage sur cette personnalité ukrainienne est intéressant, d'autant plus qu'en tirant un peu sur les mots, Ukraina en ukrainien veut dire chez nous, et Ukraina en russe veut dire à la frontière, ce qui est tout de même un peu éclairant. Merci beaucoup.
Merci. On va prendre une troisième intervention devant. Voilà, levez bien la main pour qu'on... Voilà. Merci.
J'aurais voulu, pour l'avenir, savoir si pour nous, Européens, et pour l'Ukraine aussi, il y aurait un intérêt futur à rentrer dans l'Union européenne, ou non.
Y a-t-il un intérêt pour l'Ukraine et pour l'Europe à rentrer,
devenir
membre de l'Union européenne. Alors, on va d'abord peut-être revenir dans l'histoire. Il aurait fallu plus de 20 minutes pour...
C'est ce que j'ai dit, d'ailleurs. J'ai dit que si j'avais le temps,
voilà,
j'aurais commencé au début, c'est-à-dire au moins au XVIIe siècle. Bon, alors, sous l'Empire, l'Empire s'est élargi en Ukraine pour atteindre les frontières qu'il avait... en 1914, il est certain qu'à cette époque, l'Ukraine a vécu, il n'y a pas eu de grands drames, il y avait un problème culturel. Et le problème culturel était un problème qui opposait les deux Ukraines, c'est-à-dire les deux grands empires, l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe. L'Empire russe était un empire, surtout à partir du XIXe siècle, qui a été russificateur. Alexandre III, notamment, était très russificateur. Or, les Ukrainiens étaient très attirés par leur propre langue. Leur volonté de connaître leur langue, leur volonté de développer leur culture a été pour eux une grande préoccupation. Et d'autant plus, alors, je fais un tout petit recul, qu'en 1654, le rattachement d'une partie de l'Ukraine à la Russie a été pour la Russie un pas en avant en Europe. C'est ça qui est extrêmement important. Cette partie de l'Ukraine, elle était plutôt sous l'influence romaine, sous l'influence du christianisme romain. La Russie avait adopté le christianisme byzantin. On trouvait là déjà, et en s'avançant, la Russie a trouvé dans l'Ukraine qu'elle a occupée, c'est surtout au XVIIIe siècle, elle a trouvé toute une tradition de christianisme romain, d'études, je dirais un clergé de qualité. D'une certaine façon, ça lui a apporté une ouverture. C'était l'entrée en Europe. Et ce que la Russie recherchait, Il faut se souvenir que la Russie a été un pays européen, que la rupture avec l'Europe s'est faite au XIIIe siècle quand les Mongols ont enfermé la Russie dans un univers qui n'était pas européen. Il y a eu 3 siècles de rupture avec l'Europe et au fond, la Russie a toujours rêvé de l'Europe. Je fais une parenthèse d'ailleurs ici, l'ambassadeur Dufour qui a dit fort justement que Vladimir Poutine dit que l'Europe est en déclin. Et il a dit, est-ce qu'il le croit vraiment? Je me permets de dire que je crois que Vladimir Poutine, c'est l'amour déçu. Et c'est un homme qui se veut européen et qui, profondément, comme tout russe, mais bon, l'Europe ne s'ouvre pas et par conséquent, on dit elle est en déclin, ça va très mal, etc. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, si vous voulez, l'Ukraine a été un poste avancé à un moment donné. Et le premier tsar qui récupérait une partie de l'Ukraine, le tsar Alexis, le second Romanov, était justement un homme qui rêvait d'ouverture sur l'Occident. Ça a été une sorte d'européanisation. Bon, les Ukrainiens en ont toujours eu conscience et ils étaient attachés à, comme toutes les communautés, à leur langue, à ce qu'ils pouvaient espérer, d'autant que l'Empire austro-hongrois au XIXe siècle est un empire qui est au contraire libéral à cet égard sur la question culturelle des nationalités. Que la langue ukrainienne, de l'autre côté de la frontière, elle triomphe, qu'il y a tout un clergé catholique qui développe la culture ukrainienne. Et donc il y a une très profonde frustration. Bon, les choses se sont gâtées. Alors là, elles ont été d'une extrême violence sous le régime soviétique. L'Ukraine est devenue indépendante. Enfin, ça, c'est une histoire sur laquelle on n'a pas le temps de revenir. Elle a été récupérée. La guerre civile s'est déroulée là. Elle a été récupérée par le pouvoir soviétique. Et elle devient un État soviétique, une république soviétique, à partir de 1922. Mais elle a été une république martyre. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas que la famine de 1933 a été organisée délibérément, ça c'est certain, par Staline, pour mater le sentiment national ukrainien qu'il sentait monter, sentiment national qui se développe justement parce qu'il y a eu cette espèce d'espérance d'indépendance au lendemain de la révolution russe, que cette révolution a été manquée, et il a fallu mater ces Ukrainiens. C'est une constante. Ils ont souffert comme toute la population soviétique, mais avec des purges qui ont été très dures, et Nikita Khrushchev s'était exprimé là-dessus. Il avait dit, j'ai les mains dans le sang jusque-là, l'homme qui avait épuré l'Ukraine. Et à la fin de la guerre, ça a été dramatique aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1941, les troupes allemandes, quand le plan Barbarossa a été établi, les troupes allemandes sont entrées en Ukraine. Et qu'en Ukraine, bien les Ukrainiens, en effet, qui étaient excédés, ont accueilli, les braves paysans, les braves gens ont accueilli les troupes ukrainiennes avec des fleurs. Ça, les actualités allemandes, quand on les regarde, elles avaient raison. Et Staline n'a jamais pardonné cela. Et les Allemands ont... D'abord, ils se sont comportés effroyablement. Vous savez que la théorie des généraux allemands et de quelques théoriciens allemands était... Ils avaient dit à Hitler, déjà c'est idiot d'aller en Russie, mais si vous y allez... Il faut coopérer avec la population et notamment il faut proposer l'indépendance aux nationalités et la décollectivisation aux paysans. Hitler, qui considérait que c'était une terre d'esclaves, que le Lebensraum devait lui fournir des esclaves, n'a rien entendu de tout ça et on a traité les Ukrainiens. Ils étaient sur le sol ukrainien avec une brutalité effroyable sur ses instructions. Ils en ont gardé un souvenir épouvanté, mais Staline s'est comporté aussi brutalement au moment où ses troupes ont remporté la victoire. Les Ukrainiens qui avaient été emmenés par les Allemands en Allemagne pour travailler dans des usines ou pour servir de tout ce qu'on voudra, y compris de char à canon, quand ils sont rentrés, ils ont été expédiés dans des camps pour la plupart. Donc il y a eu une véritable répression. Et à ce propos, je voudrais, si vous me permettez, évoquer aussi le sort des Tatars, parce qu'en Crimée, il y a ces fameux Tatars. Et il faut en dire un petit mot. Les Tatars aussi sont des gens très intéressants, parce que le Khanat Tatar, celui de Crimée, c'est la dernière conquête de l'Empire russe. On a conquis les autres, c'est le reste, c'est tout ce qui reste de la grande période de la Horde d'Or et de la domination mongole. Et ces Tatars, ils ont fui beaucoup en Turquie, il y en a eu énormément, qui sont partis, mais ceux qui sont restés se sont plus ou moins accommodés de la Russie, et ça ne leur a pas été facile non plus, parce que quand le système soviétique a été en place, leur vie a été compliquée d'ailleurs avant, mais quand le système soviétique a été en place, il a été Il a ignoré les Tatars. Les Tatars avaient une république, la République tatare de Crimée. Déjà, leurs droits n'étaient pas extrêmement, je dirais, respectés. Mais en 1943, ils ont été considérés, 1943-1944, comme des collaborateurs. Ça fait partie des peuples réprimés par Staline, qui ont été déportés dans des conditions effroyables. Et il y a d'ailleurs un détail historique intéressant, c'est que Staline, d'après ses malheureux, n'avait rien collaboré avec personne. Mais avant même qu'on les déporte pour collaboration, Staline avait eu une idée funeste, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est Beria, il avait eu l'idée funeste de créer un État juif en Crimée, et pour ça, de se débarrasser des Tatars. On a des documents là-dessus. Et on a commencé déjà à déporter des Tatars. Donc, si vous voulez, ils étaient tout le temps les victimes, et ils avaient l'impression que tous les projets... Bon, ça c'est un projet qui a été abandonné, mais ça, c'est 1943. Et 44, ils ont été déportés en Ouzbékistan dans des conditions effroyables, d'hygiène, de transport, c'est-à-dire qu'une partie énorme, comme tous les petits peuples déportés, est morte sur les routes. Et quand il y a eu la déstalinisation, ils étaient suspects aux yeux du pouvoir soviétique. Et ils ont été réhabilités, ils n'avaient pas le droit de retourner chez eux. Et ils ont combattu pour entrer clandestinement. Et je dirais que dans l'histoire de Khrushchev, qui donne la Crimée à l'Ukraine, il y a le désir de faire un geste envers l'Ukraine, mais il y a probablement aussi le constat que ces Tatars qui commencent à rentrer clandestinement, le général Grigorenko était leur grand avocat, allaient créer des embêtements à tout le monde. Alors tant qu'à créer des embêtements, autant que ce soit les Ukrainiens qui s'arrangent avec ces Tatars plutôt que les Russes. Ça n'est pas absolument évident, mais ça fait partie probablement des arrière-pensées de Khrushchev. Bon, en tout cas, les Tatars, après l'indépendance de l'Ukraine, ne se sont pas trouvés non plus dans une situation facile, parce qu'ils n'ont pas trouvé exactement un statut en Ukraine non plus. La nationalité ukrainienne ne leur a été accordée qu'à partir de 2012, c'est-à-dire que leur statut a été extrêmement incertain. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui, dans cette Crimée, se constituent, il n'y en a pas tellement, mais constituent aussi une population agitée. Donc, si on finit sur cette histoire des rapports de l'Ukraine et du pouvoir soviétique, ça a été une histoire terrible. Les Ukrainiens ont un contentieux dramatique, absolument dramatique. Il y a, et je crois que c'est un facteur qu'il faut ajouter, l'ambassadeur a très justement évoqué les États-Unis. Beaucoup d'Ukrainiens sont partis à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la guerre aux États-Unis, et il y a aux États-Unis une diaspora, un lobby aux États-Unis et au Canada, ukrainiens d'une importance et d'une puissance intellectuelle. Il y a des universités ukrainiennes, des experts ukrainiens, d'une puissance intellectuelle et d'une puissance, je dirais, politique considérable. Ils ne sont battus à cet égard que par les Polonais. Mais ils jouent un rôle dans... Ils exercent une pression, incontestablement, sur les autorités américaines. Donc, vous voyez, c'est un passé qui est assez tragique. Et ça fait partie. Et les Ukrainiens ressortent l'affaire de 1933, qui s'appelle le Holodomor. C'est la grande famine. Ils oublient que les Russes ont aussi payé un prix effroyable. Ils considèrent qu'ils ont payé le plus grand prix à la guerre, à la cruauté stalinienne. Tous les peuples ont souffert. Mais c'est vrai qu'il y a des épisodes saillants qu'on ne peut pas effacer.
Monsieur Dufour, peut-être sur la question de l'Ukraine en Europe, l'intérêt pour l'Europe que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne.
Je donne mon sentiment personnel, je ne sais pas. Ça n'a rien d'officiel. Moi, je considère que la politique de voisinage ne doit pas nécessairement déboucher sur l'adhésion. Non, il marche. Sur l'adhésion à l'Union européenne. Encore une fois, je pense que pour des raisons géopolitiques, géostratégiques, nous avons intérêt, l'Union européenne, à avoir un espace entre la Russie et nous qui soit un pont, un passage, plutôt que bien sûr une barrière. Mais je ne pense pas qu'il soit souhaitable que l'Ukraine, comme d'ailleurs la Turquie, mais c'est mon sentiment personnel, rentre dans l'Union européenne. Je ne le pense pas, honnêtement.
Je ne sais pas si sur ce point...
Non, non, Jean-Pascaler, je ne me permettrai pas de compléter. Il a tout dit.
Alors, nous allons reprendre d'autres questions.
Cela dit, je fais une restriction tout de même. Le peuple ukrainien, il est quand même en charge de son destin. Donc, il n'est pas impossible que lui demande l'adhésion à l'Union européenne. Mon sentiment est que nous ne devrions pas suivre. Mais, enfin, il a le droit de le demander.
Bien sûr. Ouais. Voilà, nous reprenons d'autres questions. Voilà, au milieu...
Mais une dame, là.
Oui, première. Mais après, ça va venir. Non. Voilà, levez bien la main. Voilà.
Monsieur Dufour qui a fait allusion tout à l'heure à la visite de monsieur le président russe aux festivités, si je peux dire, des débarquements qui ont lieu à la fin de ce week-end.
N'hésitez pas à parler un peu plus fort.
Est-ce que cette décision de faire venir monsieur Poutine sur les plages normandes, qui a certainement été prise en accord avec les autres chefs d'État qui participeront à cette manifestation, est-ce que vous pensez que c'est une décision opportune ou non opportune? Merci.
Voilà, donc la présence de M. Poutine aux célébrations du 70e anniversaire du débarquement. On va reprendre quelques questions et puis on vous donnera la parole après. Est-ce que c'était donc une décision opportune? Voilà, alors on va avoir en direct Bordeaux.
Oui, voilà. À Bordeaux, où l'église Notre-Dame-des-Anges est pleine.
L'église Notre-Dame-des-Anges est pleine à Bordeaux.
Et donc, on se demande ce que seraient les conséquences d'une coupure de gaz pour l'Europe et quels seraient les moyens pour l'Europe de réagir dans ce cas-là. Voilà.
Très bien. Merci pour cette question importante. Je crois qu'il y avait... Monsieur, non, vous n'avez pas... Oui ?
Quelle peut être la...
Parlez dans le micro, ce sera mieux.
Est-ce que Poutine pourrait souhaiter qu'on tourne la page de la Crimée en résolution de la question ukrainienne? Après que la Crimée a été très longtemps la Russie, sauf pendant la guerre de Crimée en 1856 et quelques.
Est-ce qu'on peut solder la crise avec le fait que la Crimée fasse partie maintenant de... Voilà. Alors, on va peut-être s'arrêter là. Je ne sais pas, la présence de M. Poutine aux célébrations du 70e anniversaire du débarquement.
Personnellement, je pense que c'est une bonne décision. Je pense que nous devons quand même nous souvenir que l'Union soviétique a participé à la défaite du régime nazi en payant un prix extraordinairement élevé. Je pense qu'il faut distinguer, voir en Poutine sur les plages du débarquement le représentant du peuple russe. Ça n'empêche pas, par ailleurs, de lui dire nos vérités sur d'autres points. Mais encore une fois, je trouve qu'il aurait été choquant qu'on célèbre le 70e anniversaire du débarquement sans que les Russes soient présents.
Est-ce que, pour continuer un peu la question, je m'adresse aux diplomates, est-ce que de telles manifestations sont aussi l'occasion d'un certain nombre d'échanges, de paroles?
Évidemment, évidemment.
Mais c'est pour ça que c'est mieux que vous le disiez.
Ce qui se passe,
parce que tout le monde n'est pas
publiquement,
diplomate.
Est certainement très intéressant médiatiquement, mais le plus intéressant se passe dans les couloirs.
Voilà, d'où l'intérêt aussi de ce genre de rencontres.
Absolument,
voilà,
absolument.
Ça,
je suis convaincu qu'il va y avoir toutes sortes de réunions bilatérales, trilatérales, quadrilatérales, etc. Et c'est une bonne chose. C'est comme ça que les choses avancent.
Voilà. Peut-être sur ce point, vous voulez...
Je voudrais juste dire que je pense très profondément, et depuis le début de la crise, que la France a un rôle à jouer avec l'Allemagne, mais qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait une initiative, qu'il y ait, je dirais, que ça s'engage. Et ça ne peut pas s'engager dans le vide, ni à Bruxelles. Et donc... Je suis l'ambassadeur, moi je suis très heureux que ça se passe comme ça. D'abord c'est normal parce que la Russie
il n'y aurait pas le débarquement s'il n'y avait pas le front russe. Les troupes allemandes auraient toutes été là pour, je dirais, pour contenir le débarquement. Il ne faut pas l'oublier, la Russie a payé la moitié des morts de la Seconde Guerre mondiale sont des morts russes. Donc on ne peut pas les écarter. Mais il me semble que c'est l'occasion, véritablement, c'est le président français qui reçoit, c'est l'occasion, véritablement, pour la France de prendre la place qu'elle a. Et c'est vrai que pour la Russie, vous avez été ambassadeur en Russie, monsieur l'ambassadeur, vous le savez mieux que moi, mais pour la Russie, la France, c'est un pays très important. Nous avons une place. Et nous sommes ceux, je dirais, dont la Russie regrette peut-être l'absence, beaucoup, d'une certaine façon. Alors c'est pour ça que je pense que c'est un moment qui va compter.
D'un point de vue économique, on a évoqué la question du gaz russe, les conséquences pour l'Europe d'une coupure de gaz russe. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je ne sais pas qui peut répondre.
Vous voulez répondre?
Moi, je ne suis pas très porté sur le gaz.
Le gaz russe qui transite par l'Ukraine, ça représente à peu près 25% de la consommation de gaz de l'Union européenne. Mais avec des chiffres très différents selon les pays. Si c'est la Lettonie, c'est 100%. Si c'est la Pologne, c'est 38 ou 39%. L'Allemagne, c'est 30%. Nous, c'est à peine 12,5-13%. Donc, mais dans l'ensemble, c'est 25%. Donc, personnellement, je pense qu'en cas de coupure de gaz via l'Ukraine, l'Union européenne arriverait à s'en sortir. Je pense que, à moins qu'il y ait un hiver extraordinairement rigoureux, etc., des circonstances difficiles, je pense que l'Union européenne s'en sortirait, mais peut-être certains pays auraient de grosses difficultés. La situation s'est quand même nettement améliorée, si je puis dire, entre guillemets, depuis 5 à 10 ans. La dépendance à l'égard du gaz russe transitant par l'Ukraine a beaucoup baissé ces dernières années. Et je pense que ça va continuer. Donc, je pense que vis-à-vis de l'Ukraine, l'arme de la coupure du gaz est une arme très sévère, très solide. Vis-à-vis de l'Union européenne, c'est déjà moins sûr.
Je vais me permettre aussi de profiter d'un intervenant dans la salle, les ressources de la salle, pour qui connaît bien cette question du gaz russe. Le micro est là, et travaille chez GDF. Voilà.
Et qui s'est occupé, il y a une dizaine d'années, des achats de gaz russe, justement.
Voilà.
Oui, juste un tout petit mot, peut-être, pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de menace de qui que ce soit d'arrêter les approvisionnements russes à l'Europe. Aujourd'hui, il y a un conflit de nature commerciale qui s'est transformé en conflit politique entre la Russie et l'Ukraine sur les dettes qu'a l'Ukraine vis-à-vis des fournisseurs russes. Et le problème, il est là. Donc aujourd'hui, ce dont on débat, c'est est-ce que la Russie va arrêter de fournir l'Ukraine? Et la deuxième question qui suit, c'est est-ce que l'Ukraine, si les livraisons russes à l'Ukraine sont arrêtées, est-ce que l'Ukraine va se servir pour ses propres besoins des livraisons de gaz russe qui sont destinées à l'Europe de l'Ouest? Mais jamais, jamais la Russie, à ce stade, et je pense qu'ils ne le feront jamais, n'utiliseront la menace et l'arme de la rupture des approvisionnements à l'Europe de l'Ouest. Et en termes de dépendance, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, les choses ont beaucoup changé depuis 10 ans, puisque maintenant il y a toute une série de gazoducs qui ont été constitués, qui ont été créés ces dernières années pour justement contourner l'Ukraine, pour éviter que cette problématique ait des conséquences sur l'Europe. Et aujourd'hui, c'est effectivement de l'ordre de 25% de l'approvisionnement de l'Europe qui est faite avec du gaz russe, mais la moitié seulement de ce gaz transite par l'Ukraine désormais, le reste transitant par la Baltique ou à travers la Pologne.
Merci beaucoup Didier de ces précisions, c'est toujours bien de pouvoir profiter des compétences de notre communauté. Donc Bordeaux n'a pas à s'inquiéter pour le gaz, on va pouvoir continuer. Voilà. Il y a la question de la Crimée, est-ce que finalement la Crimée, ça va être le prix à payer d'un accord entre la Russie et l'Ukraine? Que faut-il penser du sort de la Crimée pour l'avenir?
Vous avez la réponse.
Bon, alors je voudrais dire d'abord, je voudrais vous dire quelque chose de personnel. Vous citez mon expérience récente. Il se trouve que je suis allé à l'ouverture des Jeux Olympiques de Sochi, non pas du tout parce que je suis sportive, mais parce que j'étais chargée par la francophonie d'aller voir comment la langue française était respectée.
Et j'ai éprouvé le choc de ma vie, parce que j'avais tout lu dans les journaux sur le fait qu'on avait gaspillé l'argent des Jeux Olympiques, qu'on ne sait pas qui les avait mis dans sa poche, etc., ou on soupçonnait. Or, stupéfaction, je connaissais Sotchi, j'y étais allé plusieurs fois avant, c'est ce qui restait à la Russie sur la côte de la mer Noire. Entre nous, soit dit, Sotchi était un endroit assez laid, franchement. Hein, très laid, merci. Voilà. Autant la Crimée est un endroit magnifique, autant Sotchi était très laid. Et la Russie était, je veux dire que dans la conscience russe, la Russie était privée de cette Riviera dont elle avait été si fière, qui était un des hauts lieux de l'Empire russe et du système soviétique. Il ne faut pas oublier que la conférence de Yalta a eu lieu dans des endroits extraordinaires. Stupéfaction, qu'est-ce que je découvre ? Eh bien que Vladimir Poutine, j'ai compris où était allé l'argent. On a refait le paysage de Sotchi. On a fait une Crimée à Sotchi. On a refait complètement, on a refait la montagne, on a repoussé la montagne, découpé des choses, et vous avez une Crimée. Ça se passait au début de février, dans les premiers jours de février 2014. L'affaire ukrainienne n'avait pas encore atteint son niveau dramatique et la Crimée n'était pas encore dans la poche de Vladimir Poutine. Et je me suis dit, mais honnêtement, si vous voulez, une fois que les palmiers auront poussé, ils sont tout petits, mais ça sera une Crimée. Et je me suis dit, je comprends très bien. Ils ne supportent pas de ne pas avoir de Riviera et ils se sont fait une Crimée. Alors aujourd'hui, Vladimir Poutine a deux Crimées. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Ça, je ne plaisante pas. Ça tout de même, ça permet de réfléchir. Quand l'affaire s'est développée, je me suis dit, mais au fond, il a mis la main sur la Crimée. Quel besoin avait-il de dépenser de l'argent pour se fabriquer une Crimée de substitution et qui sera magnifique une fois encore. Bon, clairement, il n'avait pas anticipé ce qui allait arriver. Souvent, on n'anticipe pas. Il a profité de l'occasion. Alors, la Crimée, je crois qu'il faut bien dire qu'elle est dans la conscience des Russes. C'est important. Bon, historiquement, c'est important. Il y a eu la guerre de Crimée. Tolstoï, il a raconté, il y a participé. Enfin, chaque Russe a lu ça. Les récits de la guerre de Crimée, etc. On sait ce que ça a représenté. Mais elle n'est stratégiquement, probablement, plus aussi importante que dans le passé. Après tout, la fonte des glaces dans l'Arctique va permettre à la Russie d'autres débouchés maritimes. Je dirais que du point de vue de la stratégique, c'est pas sûr que ça soit aussi important que ça l'a été. Voilà. Pas plus que Sébastopol. Ça pose vraiment des problèmes. Alors, il se trouve, et ça c'est quand on a suivi attentivement la crise, il se trouve que l'occasion a été donnée à Vladimir Poutine de mettre la main sur la Crimée. Tout à fait illégalement, de façon tout à fait regrettable, mais elle s'est trouvée là. Les Russes sont allés lui dire « défendez-nous », ou les russophones « défendez-nous ». Dans l'agitation générale, manifestement, il s'est dit « après tout, allons-y ». C'est véritablement quelque chose qui n'a, à mon avis, pas été anticipé. Ça s'est trouvé. On lui a offert, d'une certaine façon, on lui a offert cette Crimée. Car tout ça s'est passé, l'histoire de la langue russe s'est passée dans le désordre véritable du lendemain de l'accord du 23 février ou du 22 février. Il s'est passé une chose tout de même extraordinaire à ce moment-là. Trois ministres des Affaires étrangères de grande qualité négocient un accord, et dès qu'ils ont les talons tournés, l'accord est déchiré. Bon, ça introduit un désordre absolu, et les gens qui ont déchiré cet accord ont dit le russe va disparaître. C'est dans cette pagaille que Poutine s'est précipité, s'est installé et a fait son coup de main. Il me semble qu'il n'est pas un aventurier. C'est tout de même un homme pragmatique. Et, bon, la Russie a acquis la Crimée là. Et je ne crois pas que quelqu'un, je ne sais pas, monsieur l'ambassadeur, si vous pensez qu'on va remettre ça en cause, ça me paraît très difficile. Qu'on leur dise rendez la Crimée, on va leur dire dites que vous avez mal agi, mais on ne peut pas leur dire rendez-la. Ça paraît bizarre. En tout cas, c'est douteux étant donné là. Je dirais l'écho que ça a en Russie. Par conséquent, je pense que ça va passer aux pertes et profits de la crise ukrainienne et qu'on discutera en disant que c'est extrêmement mal et probablement Poutine fera-t-il quelques concessions à M. Porochenko sur d'autres sujets. Peut-être n'exigera-t-il pas la fédéralisation totale. Ça peut se passer comme ça. Mais est-ce qu'il faut croire que c'est le début, le premier pas ? Ça, c'est prendre Poutine pour un aventurier et ça coûte assez cher à la Russie. Je suis d'accord avec vous, monsieur l'ambassadeur, et je ne vois pas
on ne voit pas très bien, disant ben maintenant on va passer au numéro suivant. D'ailleurs, il a montré une certaine retenue. Il ne s'est pas du tout excité sur les référendums locaux ni sur les élections. Il a dit d'emblée qu'il reconnaîtrait la légitimité du président élu en Ukraine. Ça montre le désir aussi de tourner la page, d'autant qu'après tout, il y a un bénéfice certain. Même si ça a des inconvénients, je dirais que du point de vue de l'orgueil national, et l'orgueil national joue en Russie, parce que les Russes n'oublient pas que la Russie a été un très grand pays, elle a tout de même perdu. Je voudrais rappeler que si c'est le pays, l'État le plus étendu du monde, le plus important territorialement, c'est un État qui a perdu 20% de son territoire. Et que la Russie perd chaque année près de 800 000 habitants, elle sait qu'elle est dans un état démographique grave, c'est-à-dire que c'est un pays inquiet aussi. Dans ces conditions, un certain nombre de satisfactions d'amour propre permettent aussi de tenir une société.
Monsieur l'ambassadeur.
Je pense effectivement que l'affaire de Crimée va en rester là. Ça va être un conflit gelé, ben, comme le Haut-Karabakh, comme la Transnistrie, etc. La communauté internationale, en tout cas la majorité des États, ne reconnaîtra pas l'annexion de la Crimée, mais, encore une fois, ce sera un conflit gelé. J'avoue que j'étais un peu surpris quand j'ai vu Kissinger, qui a un plan de sortie de crise tout à fait raisonnable, je trouve, laisser entendre que, j'ai là sous les yeux, les règles de l'ordre mondial établies sont incompatibles avec l'annexion de la Crimée par la Russie, mais il devrait y avoir moyen de revoir la relation entre l'Ukraine et la Crimée de façon à poser les bases d'une relation plus sereine. Dans cette optique, la Russie devrait reconnaître la souveraineté de l'Ukraine sur la Crimée. Je ne suis pas sûr que Kissinger soit vraiment convaincu de ce qu'il propose. Ça m'a étonné tout de même, parce que le reste est parfaitement réaliste et c'est de la réalpolitik normale. Mais là, c'est un habillage, je pense, médiatique.
Est-ce que je peux ajouter à cela la phrase écrite par Brzezinski, qui a écrit ça dans le Financial Times au mois de février, je crois que c'était le 27 ou quelque chose comme ça, que la sortie de crise supposait la finlandisation de l'Ukraine. Brzezinski qui a toujours dit que l'Ukraine, la Russie ne pouvait pas s'en passer, et là, il a repris le mot finlandisation.
Oui.
Je crois que ça me paraît, je dirais, une position réaliste, ça.
Je pense que c'est à ça qu'on aboutira.
Voilà. Merci pour ces lumières.
À moins que les Américains jouent un autre jeu, ça.
Alors, nous continuons. S'il y a encore d'autres questions, voilà, devant. On fait passer le micro, si vous voulez bien.
Voilà. Sur plan stratégique, il y a deux erreurs qu'il ne faut pas commettre. La première, c'est de sous-estimer son adversaire. La deuxième, c'est de l'humilier. La question suivante semble que l'UE semble complètement dépendante de l'influence américaine via l'OTAN. Alors la question que je vous pose est la suivante. Est-ce qu'on ne devrait pas dissocier littéralement les entrées dans l'Europe avec l'entrée dans l'OTAN ? Parce que j'estime personnellement que faire entrer dans l'OTAN des pays comme la Géorgie ou l'Ukraine, c'est vraiment une provocation.
Merci. Donc la question de l'entrée dans l'Europe et l'entrée dans l'OTAN, faut-il les dissocier ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tout au fond, tout en haut, 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 tout en haut. Levez bien la main. Voilà. Oui. Très bien.
Bonsoir. Je voulais déjà... Je ne sais pas si vous l'avez vraiment dit, mais j'aurais aimé...
Parlez un peu plus fort, si c'est possible.
J'aurais juste aimé ajouter que la Russie était à peu près aussi dépendante de ses exportations vers l'Europe que l'Europe dépendante de ses importations depuis la Russie en ce qui concerne le gaz et le pétrole. Et j'aurais aimé savoir si vous pouviez nous parler aussi de l'absence du devoir de mémoire en Ukraine face à ce qui s'est passé avec la Russie, justement les épisodes dont vous parliez tout à l'heure ou la participation de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, merci.
Voilà, je crois qu'il y avait une question juste à côté. Oui, madame.
Merci. J'aimerais savoir si on nous a beaucoup parlé.
Parlez bien fort.
On nous a beaucoup parlé de ces troupes masquées dont on ne savait pas si c'était des Russes ou pas des Russes, etc. Est-ce que vous avez des informations sur l'infiltration russe dans les événements de l'Est de l'Ukraine? Peut-on croire les journalistes? Quelle est la part de la participation militaire de la Russie dans les troubles?
Merci. On va en rester là pour l'instant. Peut-être la question de la dissociation entre l'entrée dans l'Europe et l'entrée dans l'OTAN.
Il n'y a aucun lien automatique entre l'entrée dans l'Union européenne et l'entrée dans l'OTAN. La Finlande fait partie de l'Union européenne, l'Autriche fait partie de l'Union européenne. Et comme je l'ai rappelé, la France et l'Allemagne se sont opposées au sommet de l'OTAN à Bucarest à ce que l'on invite précisément l'Ukraine à adhérer à l'Alliance Atlantique. Donc je ne vois pas honnêtement de lien automatique. Et je pense qu'il serait raisonnable d'inciter vivement le nouveau gouvernement ukrainien a renoncé une fois pour toutes à l'adhésion à l'Alliance Atlantique.
Voilà qui est une réponse claire. Peut-être, soit sur ce point, si vous voulez ajouter un mot, soit sur la question du devoir de mémoire.
Bon, non, je reviendrai là. Oui, sur le devoir de mémoire. C'est simplement, la personne qui a posé la question a dit le devoir de mémoire en Ukraine. Les Ukrainiens sont hantés parce qu'il leur est arrivé, ils publient des choses, ils passent leur vie à soulever la question, à juste titre d'ailleurs, parce que je dirais que les 75 ans de régime soviétique ont été terribles, et partout la mémoire fonctionne. La question est plutôt, on peut l'inverser et dire dans quelle mesure la Russie le reconnaît-elle. Alors, je dirais que la Russie a fait un grand pas dans la réflexion sur son passé. Elle l'a fait avec les Polonais, avec Katyn. C'est incontestable, c'était très difficile. Et il s'agissait d'un pays qui, avec lequel les relations russes ont été très compliquées. Et déjà Gorbatchev avait dit, après avoir hésité, il avait dit qu'il fallait tout de même s'en occuper. Moi, j'ai vu dans les archives russes, dans les archives du parti, le dossier de Katyn. Et sur ce dossier, il y a de la main de tous les secrétaires généraux du parti, commençait par Staline, à ne pas communiquer, et la signature. Et il y avait d'abord la signature de Gorbatchev en 86. Et après, il a dit, il va falloir tout de même dire la vérité. Et on peut dire que le pouvoir russe a transmis au gouvernement polonais, je ne sais pas si c'est la totalité des archives, mais énormément des archives sur cette tragédie. Donc il y a une volonté de dire les choses. Sur la question de 1933, c'est plus difficile. Et sur la question de la fin de la guerre et des accusations de collaboration des peuples, c'est plus difficile aussi. On peut dire qu'il y a un travail de déstalinisation. Les historiens y travaillent. Il y a des conférences d'historiens extrêmement libres d'esprit qui se tiennent et on pose des problèmes du stalinisme. Mais les gouvernants russes ont dit beaucoup de choses. Medvedev, quand il était président de la République de Russie, de 2008 à 2012, a dit que Staline était un grand criminel. Bon, il l'a dit et je dois dire que même si Vladimir Poutine à la fois entretient un nationalisme, en même temps il n'entretient pas, il est très ferme là-dessus et il reconnaît que la criminalité du système stalinien. Mais il y a une prudence avec la grande famine de 1933, c'est certain, les Russes n'aiment pas qu'on l'évoque, ils disent c'est pas si simple, il faudrait regarder. Vous savez, la mémoire des peuples est difficile, il ne faut pas oublier, je crois qu'il faut toujours avoir conscience des choses. Le système national-socialiste s'est effondré dans une guerre mondiale. L'Allemagne a été condamnée par le tribunal, enfin les criminels de guerre allemands ont été condamnés par le tribunal de Nuremberg. L'Allemagne a été en procès. Et ce qui restait du régime nazi s'est envolé. Les hommes ont disparu. En plus, c'est un système qui n'a duré que 13 ans. C'est-à-dire que ça n'a pas marqué les hommes. Ça ne forme pas des générations. Le système soviétique a duré 75 ans. Trois générations ont vécu dans ce système, d'une certaine façon, ont une complicité avec ce système. Il faut le savoir, quand les enfants étaient invités à dénoncer leurs parents, dénoncer son voisin, il y a ceux qui ont survécu, même quand ils étaient contre, ont le sentiment qu'ils ont une certaine part de responsabilité. C'est extrêmement douloureux. Et ce n'est pas une guerre mondiale, ce n'est pas la communauté internationale qui a condamné le régime soviétique, ce sont les Russes eux-mêmes qui l'ont condamné. qui s'en sont débarrassés, qui l'ont détruit, qui l'ont condamné. Alors, ça m'est conduit, c'est assez difficile, si vous voulez, après, même de ne pas désespérer la société. Songez, qu'est-ce que pense un Russe aujourd'hui quand on lui explique qu'au fond, tout le monde a plus ou moins une responsabilité dans les horreurs du stalinisme, parce que si on ne sait pas soulever, c'est qu'on n'a pas... Bon, les gens se disent, ben, mon père, après tout, etc. C'est très, très difficile. C'est ce qui explique, je dirais, cette prudence de la mémoire. Et sur les questions comme la famine et tout ça, c'est devenu un sujet... C'est pas seulement un sujet de mémoire. Les sujets de mémoire peuvent être des sujets d'opposition, d'hostilité. Et c'est en effet un sujet dont les Ukrainiens ont fait un argument contre la Russie. Ils disent il faut qu'on s'en aille. D'ailleurs, si on doit aller vers l'OTAN, c'est bien pour qu'on ne refasse pas la même chose. Bon. Et les Russes le ressentent aussi comme ça. Ça rend les choses extrêmement difficiles. Et je crois qu'il faut avoir conscience que pour ces peuples qui ont vécu la même histoire, qui ont partagé les mêmes horreurs, 75 ans, 3 générations, c'est-à-dire la mémoire collective, il est très difficile de dépasser ça. Alors, est-ce que je peux dire un mot sur la troisième question? Voilà, parce que, alors ça, c'est une question très intéressante. Bon, en Crimée, on a vu des gens qui étaient certainement des Russes, il n'y a pas de problème, c'était des milices russes. Mais je crois qu'il faut être très prudent. Les Russes disent, regardez ce qui s'est passé à Maïdan. Ce n'était pas seulement des gentilles ménagères et des gentils étudiants qui étaient sur le Maïdan. Quand on a observé à la télévision les événements très attentivement, il est clair qu'il y a eu un changement sur le Maïdan, que ça a été d'abord une vraie révolte populaire pendant des semaines, magnifique, courageuse, et puis que tout d'un coup, on a vu tout de même un spectacle un peu différent. Et je dirais que quand les Russes disent qu'il y a eu des mercenaires, des sociétés de mercenaires américaines, que les Américains emploient, on sait qu'ils les ont employés en Irak, on sait au fond que dans les relations internationales, pardon, monsieur l'ambassadeur, mais ça a beaucoup changé les choses. On emploie des sociétés de mercenaires maintenant. Plutôt que de faire tuer ses propres gens, les fameux Blackwater qui sont devenus Academia, dont je ne connais plus le nom actuellement, qui en Irak ont été extraordinairement présents, on ne peut pas dire le contraire, il semble qu'ils tuent aussi quelques participants comme ça. Et qu'au fond, alors c'est un peu... Alors je dirais, je prends maintenant les choses du point de vue de la Russie, parce qu'il est bon de comprendre son point de vue. Les Russes disent qu'il y a deux poids et deux mesures. Laissons la Crimée de côté. Il y a eu le Maïdan avec des gens qui ont rompu un accord qu'ils avaient signé, des manifestations qui ont dégénéré. Et puis ce qui s'est passé en Ukraine orientale, est-ce que ça ne ressemble pas au Maïdan? Est-ce que ce n'est pas du même tonneau? Alors ce n'est pas tout à fait du même tonneau, mais ils ont le sentiment que l'opinion internationale est d'un côté et que l'autre côté est condamné. Et du même coup, je dirais... Je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de provocation. Poutine a pu s'emparer de la Crimée parce qu'il y a eu la provocation de la langue. C'est ça. Et il ne faut pas qu'il y ait de provocation. C'est très dangereux. Parce qu'avec des provocations, je ne pense pas qu'on emmènera Poutine jusqu'à envoyer des troupes dans l'est de l'Ukraine. Mais mieux vaut être prudent et considérer qu'il ne faut jamais pousser les choses trop loin. Moi, je crois que ce qui compte, c'est que l'Ukraine survive. Qu'elle survive intacte et qu'elle puisse recommencer à vivre, parce que c'est un grand pays européen.
Sur ce point, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Dufour?
Non, bon, je n'ai pas de données particulières. Il me semble que Lavrov a reconnu...
Tout à fait.
Lavrov a reconnu qu'il y a eu des Russes qui sont venus en Crimée. C'est évident pour tout le monde, de toute façon. dans l'Est ukrainien, là, c'est plus compliqué. Mais personnellement, je n'ai pas de données précises pour dire si oui ou non il y avait des Russes. Il y a eu quand même des passages à la frontière, évident. Bon, on a trouvé quand même dans le... lorsqu'il y a eu ce camion qui était chargé de nombreuses personnes et qui a été démoli par un obus qui venait je ne sais pas où d'ailleurs... on s'est aperçu quand même que parmi les cadavres, il y en avait un certain nombre qui n'étaient pas des Ukrainiens, et puisqu'il y avait même quelques Tchétchènes. Donc on ne sait pas comment les choses se passent. Il y a eu certainement des infiltrations. Est-ce qu'elles ont été télécommandées directement par Moscou ou pas? Encore une fois, je crois qu'il faut être prudent dans cette matière. Il n'y a pas des petits saints de tous les côtés.
c'est sûr, oui. Alors peut-être une dernière question avant que nous terminions notre soirée. Dernière question, voilà, qui est au milieu de la salle.
Une question peut-être, je ne sais pas. On a beaucoup comparé Poutine à un joueur d'échecs, en fait, mais est-ce que finalement ce n'était pas un mauvais joueur d'échecs qui a pris une pièce facile pour se faire plaisir, enfin se faire plaisir, et d'une certaine façon, parce que c'était, comme vous disiez, pour le peuple russe, ça lui a redonné beaucoup d'aura. Mais en définitive, d'abord, il n'en avait pas besoin, puisque la Crimée était déjà sous sa coupe. En fait, il avait ses bases, il avait la population lui était déjà acquise. Donc, ça lui apporte rien de particulier. Et sinon, de le mettre en corner, en fait, vis-à-vis du monde international. Donc, en définitive, il s'est tiré une balle dans le pied.
Voilà. Alors, monsieur Poutine, est-il un mauvais joueur d'échecs? Parlez bien dans le micro.
Bon, il s'est tiré. Moi, je pense qu'effectivement, il est, sur le moyen et le long terme, il a plutôt perdu dans cette affaire. Sauf en popularité auprès de son opinion publique, ce qui n'est pas négligeable, car il ne faut pas oublier que la politique extérieure de la Russie est toujours très largement conditionnée par la politique intérieure. Et moi, je me demande si cette campagne de propagande quasiment ethnique sur les Russes et les russophones n'est pas dangereuse à moyen et à long terme. D'ailleurs, on le sent chez Nazarbayev, il est assez inquiet. Et ses déclarations sont extrêmement réservées cet an dernier. Loukachevski, bon, il a son tempérament. Mais je me demande si Poutine n'a pas joué un peu avec le feu en déclenchant cette offensive de propagande. Il faut écouter Russia Today et les télévisions russes. Enfin, c'est... Et certains organes de presse. Enfin, vous avez parlé, Mme Carrière, dans cause de Dugin. Bon, Dugin est un espèce de fou furieux. Mais j'ai écouté l'autre jour sur la télévision russe une interview de Dugin par, comment s'appelle-t-il, le fameux journaliste, comment s'appelle-t-il, enfin un journaliste qui est très connu à la télévision. C'était absolument effrayant ce qu'il a pu déverser sur l'Union européenne, sur la civilisation occidentale, etc. Alors, on me dit que Dugin n'a plus aucune influence. Il en a eu à un certain moment sur Poutine et surtout sur les militaires. Maintenant, il est assez dévalué et il raconte un peu n'importe quoi. Enfin, tout de même, c'était assez inquiétant.
Madame Carrère-Dancos.
Alors, je vais juste vous faire part d'une lecture que j'ai eue hier dans le train, parce que j'étais dans un train pour aller à Strasbourg. J'ai lu le Nouvel Observateur. Il y avait un article qui s'appelait « Poutine, patron des fachos européens », et qui expliquait que Poutine, maintenant, allait s'appuyer dans toute l'Europe sur les élus des partis d'extrême droite. Bon. Que M. Dugin le pousse, c'est probable. Qu'il dise « c'est très bien, voilà, nous avons là nos... » des gens qui représentent l'Europe la bonne, l'Europe sympathique. Mais il me semble tout de même, d'abord, vous l'avez dit très justement, il y a une élite en Russie qui ne marche pas et qui n'acceptera pas, qui ira dans la rue si on commence à... Je veux dire que si la Russie devient... Si Vladimir Poutine devient le protecteur d'une Europe extrême, les intellectuels vont redescendre dans la rue. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des manifestations il y a 2 ans... que ces manifestations étaient très intéressantes. On n'a pas osé les réprimer, ce qui est tout de même très, très significatif. En d'autres temps, et même il y a quelques années, on aurait ramassé tous ces aimables jeunes gens et on les aurait envoyés quelque part au-delà du côté du cercle polaire ou dans je ne sais quel camp de redressement. Et ces gens qui étaient là, c'est la jeune génération russe. Ce sont des gens les plus diplômés, ceux qui étaient jeunes, qui étaient... véritablement qui représente l'élite. C'est pas très facile de jouer avec. Et là, ils ne marcheront pas. Donc je crois qu'il faut tout de même... C'est là que M. Dugin représente quelque chose qui... Bon, c'est un discours qui certainement porte sur des faucons. Il y a des faucons, mais il y a toujours des faucons partout, pour dire la vérité. Et il y a des faucons qu'on voit d'ailleurs dans les analyses sur la Russie, qui sont un peu extrémistes. Mais il me semble qu'il y a une tendance modérée tout de même
Une chose est d'avoir des bons sondages, parce qu'on dit j'ai rendu la Crimée à la Russie, ça c'est une chose tout à fait qu'on peut attendre. Autre chose est de dire eh bien nous sommes pour véritablement pour une Europe qui sera tout à fait anti-européenne, etc. Là, il y aura un mouvement, et je voudrais rappeler autre chose, pas seulement les livres, je voudrais rappeler un chiffre. Aujourd'hui, en Russie, il y a 50 millions d'abonnements à l'Internet. 50 millions. Sur une population de 143 millions d'habitants, ça veut dire que chaque foyer, les petits bébés n'ont pas d'abonnement à l'Internet, les grands vieillards non plus. Ça veut dire qu'on peut penser que presque chaque foyer est abonné à l'Internet. L'Internet, ça permet de regarder les informations ailleurs, de ne pas se contenter de la télévision russe et d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est un changement considérable. Il n'y a plus de rideau de fer de ce côté-là. Et la télévision russe peut raconter ce qu'elle veut, mais je crois que ça, c'est la fin des barrières et la libération des esprits.
Voilà, je voudrais remercier très chaleureusement en votre nom, Madame Hélène Kerrer-Dankos. Et Monsieur Bertrand Dufour pour leur présence, pour leur éclairage croisé qui nous ont vraiment, je crois, aidé à mieux comprendre les enjeux de cette crise ukrainienne et nous permettre de mieux suivre aussi les développements à venir. Alors, vous trouverez à la sortie des urnes, vous pourrez déposer, si vous le souhaitez, votre participation aux frais de cette soirée. Merci encore de votre fidélité. Notez bien la date du mardi 7 octobre pour la première soirée d'éthique publique de la rentrée. D'ici là, bon été à tous et au revoir.